Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avant cette période de vacances qui arrive, nous avons à la demande de notre amie Brigitte Morozov le plaisir d'accueillir André Puget, directeur médical du SAMU 13, pour nous parler de médecine de ville et hôpital, les enjeux du parcours de santé de demain. D'autres jeudis de l'ordre vont suivre, je n'en cite qu'un, celui du 16-9-21, à propos de handicap et accessibilité à la santé, animé par Michel Mercier, professeur honoraire de psychologie à la faculté de Namur et de Lille. Je glisse une petite information entre ça, une information importante pour être remplacé ou remplaçant cette année. Vous pouvez vous connecter d'ores et déjà à My Medical Map que nous venons d'ouvrir sur notre site du CD13. L'équipe de la communication vous remercie de votre fidélité. Elle salue particulièrement notre présidente et tous les membres du CD13. Merci. La parole est à toi, André Puget.
Bonjour. Je remercie le Conseil de l'Ordre et vous de participer à cette réunion. L'objectif de la présentation de ce soir, c'est de resserrer un peu le parcours de soins sur l'urgence.
En fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le SAMU Centre 15 tel qu'il est actuellement ne peut qu'évoluer pour essayer de s'ouvrir vers la ville et apporter une réponse différente de celle qui est donnée actuellement, qui est souvent d'amener à l'hôpital les patients qui nous appellent ou un conseil médical. Actuellement, au SAMU Centre 15, on reçoit environ 800 000 appels, ce qui génère 350 000 dossiers de régulation médicale et on donne environ 30% de conseils médicaux. Et on utilise ensuite des transporteurs sanitaires et des VSAV. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'améliorer cette réponse et que la réponse ne soit pas le tout hôpital. Donc, l'idée au départ, c'était de poser le problème. Et donc, je m'appuie sur les références de la Société française de médecine d'urgence, de SAMU Urgence de France, et de l'HAS qui nous détermine un certain nombre de critères pour encadrer cette régulation médicale. Et donc l'idée c'est d'améliorer la gestion de la réponse et de diminuer le volume des transports et d'améliorer le lien ville-hôpital. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez complexe parce que même si on a la chance au SAMU Centre 15 des Bouches-du-Rhône d'avoir une forte participation déjà de la médecine de ville, il nous manque des effecteurs de terrain, et c'est quelque chose qui évolue au fil des années et qui s'amenuise. Même si les médecins de ville assurent une grosse partie de l'urgence au quotidien. Hein, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas, et c'est vraiment essayer de les placer quand même au milieu de tout ça, et aussi d'assurer une correspondance et un lien. Même si les gens nous appellent, c'est de pouvoir aussi les informer de ce qui s'est passé pendant cette période où ils n'ont pas pu recevoir leurs patients. C'est aussi intégrer de nouvelles technologies. Alors l'idée d'intégrer de nouvelles technologies, je le développerai plus tard, c'est pour essayer de nous aider à mieux gérer ces appels. Là, actuellement, on a formé nos armes pour essayer d'apporter une réponse meilleur, et c'est vrai que le reproche qu'on nous fait des fois, c'est d'être pas très bien accueilli, et on essaie vraiment d'améliorer cette réponse. C'est aussi la gestion de crise. On l'a vu, on a passé une période assez difficile, comme tout le monde, pendant cette crise sanitaire, et on a dû développer des moyens assez importants. On a formé plus de 70 médecins libéraux à venir nous aider à la régulation. On a ouvert deux salles de crise qui ont fonctionné en parallèle et ça nous a permis de passer des caps assez difficiles avec plus de 6000 appels jour à certains moments. L'intérêt, c'est de définir le rôle de chacun. L'aide médicale urgente, qui est souvent en avant, hein, mais qui n'est pas que la seule réponse du Centre 15, parce que chez nous aussi, On a d'autres acteurs qui participent avec nous, les pompiers avec le secours d'urgence à personne, et les acteurs du soin non programmé que sont la médecine de ville, qu'ils agissent au quotidien dans la journée ou pendant les périodes de garde. Ça veut dire que c'est nous qui aussi, dans le cadre de l'urgence et des appels que nous avons, devons définir les besoins de la population pour ceux qui échappent aux praticiens installés en ville et qui font qu'on est passé de 500 000 appels il y a quelques années à plus de 800 000 maintenant, avec donc l'envoi de moyens qui sont quelquefois surdimensionnés par rapport à la demande. On s'appuie aussi sur Ma Santé 2022 et le pacte de refondation des urgences et son financement, qui vont modifier la donne et qui vont nous obliger à travailler peut-être différemment dans les hôpitaux avec une réorientation de notre prise en charge. Cette aide médicale d'urgence doit s'inscrire aussi dans l'offre de soins publics et privés des établissements de soins, que ce soit aux soins du GHT ou dans la complémentarité du public et du privé. Et on va essayer aussi de développer l'offre de soins des médecins correspondants SAMU, qui sont une antenne dans les zones un peu désertiques de soins d'urgence, et notamment de SMUR, pour être les primo-intervenants qui vont attendre le SMUR qui va arriver et nous permettre d'assurer une chaîne de secours qui soit efficace. Donc vous voyez que le chantier est quand même assez énorme et qu'il s'appuie sur tout le système de soins. Ces soins non programmés doivent s'appuyer sur le médecin traitant. Il est bien évident qu'on ne va pas exclure ce qui marche déjà. On est en complément, c'est ce qu'on fait déjà, mais ce qui compte, c'est d'améliorer encore la relation entre tout le monde. On va s'appuyer sur les plateformes territoriales d'appui, sur les CPTS aussi, et bien sûr sur tous les acteurs que l'on peut rencontrer, y compris SOS Médecins. Donc c'est vraiment essayer de faire un état des lieux de ce qui existe pour en prendre le meilleur et faire sortir quelque chose qui soit fonctionnel. Actuellement, si on regarde ce qui se passe sur les différents systèmes d'appels d'urgence, on s'aperçoit qu'il y a les SAMU qui reçoivent 25 millions d'appels à peu près, les SDIS qui reçoivent 18 millions d'appels, la gendarmerie 8,9 millions, la police nationale à peu près le même niveau, et donc on voit que tout ça c'est peut-être dispersé, mais à un moment donné on se retrouve toujours, nous depuis une vingtaine d'années on a une plateforme virtuelle commune avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et les marins-pompiers, si bien que dans la salle de régulation, si vous la visitez actuellement, on a un opérateur des marins-pompiers et un médecin des marins-pompiers qui participent à la régulation médicale H24. On a aussi des médecins libéraux, on en a 2 à 3, voire 4 à certaines heures, H24, et on a aussi les logiciels de régulation du SDIS, ce qui fait qu'on est en train d'améliorer encore leur présence, puisqu'on travaille sur un lien fonctionnel entre les deux logiciels pour que ce soit quelque chose d'automatique et qu'il n'y ait plus de perte de temps entre la prise d'appel 18 et la prise d'appel 15. Ce à quoi on s'attache actuellement, c'est d'arriver à ce graal qui est le taux d'accueil de 99% des appels. On est à 96-97, on augmente progressivement petit à petit, et donc ça demande plus de personnel chaque fois. Mais plus de personnel, on ne pourra pas de manière illimitée augmenter ce nombre de personnel, et c'est pour ça qu'il faut trouver aussi des alternatives et des modes de fonctionnement qui permettent d'améliorer cette réponse. Ce taux d'accueil, vous le voyez, il a augmenté de manière progressive depuis 2018. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à un taux d'accueil à 99% à 60 secondes. C'est-à-dire que quasiment 100% des appels à 60 secondes soient répondus. Alors, c'est quelque chose, à certaines heures, qui est très compliqué. Il faut bien imaginer que de 18h à 23h, on passe d'une moyenne de 60 à 80 affaires heure à plus de 110, 120 200 à certaines périodes de fêtes. Et c'est là tout l'enjeu et la difficulté que nous avons quand on a... c'est ce qui fait baisser nos taux d'accueil. Hein. Et donc l'idée, c'est peut-être... c'est ce qui a fait réfléchir Samuel Jordan de France de fonctionner en frontline et backline. La frontline, c'est celle qui va recevoir l'appel, le trier, essayer de voir ce qui doit être répondu très rapidement et ce qui peut avoir un délai de réponse plus à distance. Ensuite, ce qu'il va bien falloir faire, c'est aussi harmoniser ces réponses. Là, je n'ai pas mis le nom des SAMU parce que ce n'était pas l'objet, ce n'est pas mettre en concurrence, mais on voit bien qu'entre le SAMU 1, le SAMU 2 et le SAMU 3, on a une différence surtout au niveau de la réponse. On voit bien que le conseil médical, il est harmonieux sur deux SAMU, et puis il y en a un qui en donne moins. Mais ce SAMU qui en donne moins, c'est parce qu'il consacre ses réponses plus à la médecine de ville, parce que dans son département, il y a une plus grosse présence médicale qui fait que on a plus facilement des acteurs de terrain. Donc c'est là aussi l'enjeu, c'est d'harmoniser et d'avoir une réponse. Vous voyez que sur la réponse en voie du VSAV aussi, on a une différence. Le VSAV, c'est le véhicule des pompiers. Hein. On a une différence qui est significative entre les différences SAMU. Donc l'idée, j'ai été chargé par je vais avoir un ordre de mission de l'ARS, d'essayer d'harmoniser cette réponse pour que on essaie de trouver quelque chose qui soit cohérent dans nos réponses. Ça, c'est pour montrer la proportion en fait entre l'origine des appels. Dans notre SAMU Centre 15, le 15 représente 80% des appels régulés. Les transferts d'appels du 18, c'est 10% pour le bataillon et 10% pour le SDIS. Et donc ensuite, on a la répartition entre l'aide médicale urgente. Alors j'ai mis soins non programmés, c'est un peu de l'anticipation. C'est la médecine libérale, la médecine de ville qui est dans nos locaux, qui régule. On voit qu'en semaine, elle est de 40-60 et le week-end, c'est 50-50. Et pendant le Covid, c'est la médecine libérale qui nous a aidés à répondre au mieux. Donc on voit bien toute la place qu'il peut y avoir aussi de la médecine de ville dans un SAMU Centre 15. Ce qu'on essaie de corriger, c'est de diminuer le nombre d'appels perdus, d'harmoniser ces réponses entre SAMU, d'essayer d'améliorer cette réponse sur le terrain par manque d'effecteurs. Donc c'est motiver aussi peut-être les médecins, mais il n'y a pas que les médecins qui peuvent nous aider, de renforcer la réponse dans les déserts médicaux et surtout de répondre aux problèmes sociaux. Il y a une part importante dans les réponses qui nous sont demandées de problèmes sociaux, que ce soit des personnes âgées isolées, des gens qui sont indigents et qui n'ont pas la possibilité, par exemple, une famille monoparentale, quand on a trois enfants et qu'il y en a un qui a 40 de température, c'est très compliqué de l'amener voir le médecin traitant ou le cabinet médical, le cabinet médical qui est ouvert à proximité. Donc c'est la grande difficulté. C'est aussi le manque de moyens induit par des réponses adaptées qui trompent les tutelles. Une chose que moi j'ai remarqué depuis toujours, c'est qu'en fait, quand on régule, on est tenté d'utiliser le moyen que l'on a. Alors que peut-être c'est pas le moyen qu'on aurait aimé utiliser. Et donc pourquoi ne pas utiliser cette réponse, de se dire peut-être que là j'aurais envoyé le patient à un cabinet médical ou peut-être que j'aurais envoyé un médecin de garde, mais comme je ne l'ai pas, je prends l'ambulance privée. Et donc je prends cette dernière décision, du coup la tutelle ne sait pas et ne connaît pas le besoin de santé. Et là c'est un enjeu qui est important. Et ensuite on transporte trop de patients. C'est vrai qu'il y a des patients qui vont passer des heures aux urgences pour ressortir au bout de 5 minutes de consultation. Et là, c'est mobiliser un moyen de transport et une équipe médicale des urgences, peut-être pour rien. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on va essayer, il faut s'appuyer sur... On sait qu'il y a une diminution des moyens de garde, on sait qu'il faut réorganiser ce transport sanitaire privé, et ça, dans le département, on y est bien aidé. Le VSAB par carence coûte cher à la santé, puisqu'en fait c'est un transfert de financement. Hein. Les financements sont globalisés, ce sont des enveloppes. S'ils sont consacrés à du VSAB par carence, eh bien, on ne les mettra pas ailleurs. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont importants. Et puis on a des urgences débordées, en tension, avec des médecins qui s'en vont et qui quittent les urgences parce qu'ils ont l'impression de ne plus faire le travail pour lequel ils étaient rentrés à l'hôpital. Ensuite, il faut un maillage territorial des moyens qui soit efficient et cohérent. Et donc ça, c'est un travail qui doit se faire en collaboration avec les services départementaux d'incendie et de secours. Donc on voit bien que c'est tout ce panel qui doit être organisé et qui doit aller dans un sens, c'est apporter la meilleure réponse aux patients. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, hein. Je ne vais pas dire qu'on ne le fait pas, mais c'est optimiser cette réponse et pour ça, on a besoin de tout le monde. Comment y arriver ? Donc il faut, pour y arriver déjà, on s'est appuyé sur les objectifs du rapport Marcus, c'est répondre rapidement et de manière efficace aux patients. Ça, c'est SAMU Urgence de France qui l'a mis en place avec un député pour organiser, pour analyser ce qui se passait. La flexibilité des cycles de travail des opérateurs, le problème dans nos SAMU Centre 15, c'est que ce sont des agents hospitaliers qui sont formés pour ça et qu'on ne peut pas former en quelques heures comme on peut former un McDo pour fabriquer du hamburger aux heures de pointe. Là, il faut qu'on ait quelque chose de cohérent. Ça veut dire que la flexibilité, ça ne veut pas dire qu'on va modifier leurs horaires, c'est que peut-être on va utiliser des temps de travail qui soient différents dans la journée pour optimiser la réponse quand il y a des moments importants. Assurer les annuaires, renseigner une plateforme de santé, voilà. Assurer une stratégie d'entraide entre les SAMU Centre 15 lors des pics d'appel. Et pour ça, il faut un système informatique qui soit cohérent et puissant. Ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec les 6 SAMU, qui permettra même, on en reparlera tout à l'heure, de réguler à distance. Virtualisation territoriale de la disposition téléphonique. Tout ça, c'est aussi SI SAMU. C'est pour de permettre de pouvoir communiquer à tout point d'endroit dédié avec le système informatique et téléphonique. Des outils de pilotage opérationnel en temps réel. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir, avec un algorithme, de prévoir le nombre d'appels qu'on va avoir dans l'heure qui suit. C'est possible en analysant les choses d'une année sur l'autre et d'une période sur l'autre, de savoir combien de patients vont arriver dans les urgences. Sur le répertoire opérationnel des ressources, qui est en ligne et auquel tout professionnel de santé peut accès, vous avez le point des lits qui devrait être automatisé. Pour le moment, il est volontaire, mais pour l'assistance publique, par exemple, et certains établissements de soins, 3 fois par jour, il est actualisé de manière automatique. Donc, c'est des choses qui devraient quasiment être... Il y a une question auquel j'essaierai de répondre tout à l'heure, si ce n'est pas le sujet, mais qui parle de ça, qui parle de comment connaître le lien. C'est peut-être la solution, avoir ce répertoire opérationnel et savoir s'en servir. Et pour ça, il faut qu'il soit utilisé. Professionnaliser les fonctions de supervision et de pilotage. Ça, c'est à l'intérieur des centres 15. Il y a des moments où on a un peu moins d'appels et donc on doit pouvoir orienter les appels différemment, générer des pauses. Et puis, il y a des moments où on doit recruter tout le monde. Et pour ça, il faut des vrais pilotes dans le SAMU Centre 15. Et puis, il y a la formation. Et ça, on a ouvert des écoles d'armes. On développe la formation des médecins urgentistes et peut-être qu'on va créer des DU de régulation pour attirer des médecins de ville à la régulation médicale, mais les former parce que c'est pas tout à fait la même chose, même si ça s'en rapproche, c'est pas tout à fait la même chose de donner un conseil médical à quelqu'un qu'on connaît, qui est de sa patientèle, et à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui appelle pour avoir un avis sur une pathologie qui est quelquefois extrêmement compliquée. Donc c'est tout l'enjeu de ce type de choses et donc ça demande une formation. Alors améliorer la qualité, le rappel Marcus, c'est renforcer et structurer les dispositifs existants. Territorialement, on ne va rien changer. On va juste utiliser les moyens qui sont en place, mais ça veut dire une énorme énergie, ça veut dire travailler avec l'ARS, qui sera là pour coordonner les choses, pour arriver à trouver ce qu'il y a de mieux dans le territoire, en s'appuyant sur les plateformes territoriales d'appui, sur les CPTS, sur les médecins de ville qui sont là, et essayer de faire qu'on ait une réponse optimale. Diffuser les bonnes pratiques et les initiatives et les généraliser. Vous avez vu les différences qu'il y a entre les SAMU, ça veut dire qu'il y a des SAMU qui ont des solutions qui sont différentes et qui peut-être peuvent être généralisées un peu partout, dans la région et obtenir une meilleure, voire la France, et obtenir une meilleure réponse. Encourager la certification de la qualité et la relation avec les usagers. Il n'y a qu'un SAMU certifié en France. Et il faut qu'on arrive à ce que tous les SAMU aient leur certification. Améliorer et harmoniser l'organisation du travail et moderniser l'environnement de travail, c'est ce qu'on est en train de faire. On le fait au quotidien. Là, on a une salle de régulation qui commence à vieillir. On va pouvoir l'améliorer transitoirement avant d'avoir des nouveaux locaux, j'espère d'ici 4 à 5 ans, qui seront quelque chose de moderne avec un data center et qui permettront de rendre un meilleur service à tous. Former et informer des risques et sur les risques professionnels, parce que la régulation, c'est un risque. Hein, on se retrouve à vouloir à donner un avis sur quelque chose d'extrêmement urgent ou peut-être pas, en quelques minutes, sans connaître le patient qu'on a en face. Encourager la certification à la qualité, ça j'en ai déjà parlé, et donc on aboutit à ce que, et c'est pour ça que je suis venu ici, vous parler du SAS, le service d'accueil des soins, qui est d'abord une plateforme de santé avec plusieurs briques. D'abord une plateforme de santé avec une plateforme digitale, qui sera là pour essayer d'orienter, surtout les jeunes, les jeunes et les moins jeunes, qui savent très bien utiliser les outils informatiques et qui pourront trouver à l'intérieur des tas d'outils, des tas d'informations qui permettront de leur éviter de peut-être nous appeler et d'avoir des solutions qui sont qui existent déjà dans certains endroits, mais qui vont être développées. Un 113, alors ça c'est ce que défend SAMU Urgences de France, avec peut-être un 112 derrière, régional ou territorial, c'est pas ça le problème. Ce qui compte, ce sont les briques, avec à l'intérieur une arme en front line qui est là pour recevoir les appels. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas été satisfaits ou qui ressentent une urgence vont arriver sur cette plateforme et l'auxiliaire de régulation médicale va assurer ce tri et dire c'est... Ça dépend de l'aide médicale urgente. Et donc, je peux envoyer de manière réflexe le moyen. Ou ça dépend des soins non programmés et je vais le basculer vers un médecin libéral qui est dans la salle de régulation ou qui pourra peut-être plus tard être ailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'assurer cette régulation. Bon, il y aura un superviseur qui sera là pour encadrer les choses et puis pour orienter les flux. Mais c'est ça qui est important qu'il faut comprendre. Derrière, pour ce qui est de l'aide médicale urgente, on a des armes de niveau 2 qui sont là pour assurer le lien avec les effecteurs de terrain lourds, transporteurs sanitaires privés, les SDIS, les SMUR du département. Et par contre, on aura des opérateurs de soins non programmés qui seront là pour coordonner le soin non programmé, non hospitalier. Et qui représente, vous avez vu le week-end, jusqu'à 60% de nos appels. Donc c'est quelque chose, c'est un enjeu important, et on voit bien que ce n'est pas du tout ni pour imposer quelque chose, ni pour entrer en concurrence, c'est vraiment pour, on le voit bien, nous, le week-end, 60% de nos appels sont des appels qui relèvent de la médecine de ville. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire là-dessus pour améliorer cette réponse plutôt que de les envoyer à l'hôpital. Derrière, on pourra mettre en place soit de la télémédecine pour l'aide médicale urgente, soit de la télémédecine pour lever de doutes, mais aussi on pourrait imaginer d'envoyer des effecteurs de terrain, que ce soit des ambulanciers privés, des sapeurs-pompiers formés avec des moyens de télécommunication qui pourraient nous apporter une levée de doutes sur les cas litigieux qui ne rentreraient ni dans un cadre ni dans l'autre, mais qui seraient plus de l'aide médicale urgente. Mais on pourrait imaginer aussi de la télémédecine sur l'offre de soins non programmés de médecine de ville pour éviter à cette brave dame qui se retrouve toute, ou monsieur, parce que je ne fasse pas de sexisme, qui se retrouve à domicile avec ses 3 enfants parce qu'il est tout seul, qu'il a déménagé parce qu'il est venu trouver un travail dans le sud de la France et qui n'a pas de voisins qui peuvent garder les enfants pendant qu'il doit faire soigner ou elle doit faire soigner son enfant qui a 42 de température. Ou parce que lui, il est malade aussi. Et donc, c'est vraiment essayer de trouver des solutions pour ça qui nous pose déjà des problèmes. On intégrera dedans le centre antipoison et puis tout un tas de choses, de filières spécialisées. La pédiatrie, la périnatalité, la gériatrie, avec un lien avec les hotlines de gériatrie qui existent déjà. Et donc, on voit bien que ça permet, peut-être d'intégrer aussi, là, vous savez, actuellement, on met en place Vigilant, qui est là pour faire de la prévention secondaire des tentatives de suicide. Derrière, il se met en place aussi une plateforme d'accueil des suicidants en première ligne. Donc, des tas de choses sont en train de se mettre en place, et ces briques-là, ben, elles seront peut-être intégrées chez nous, mais peut-être aussi qu'on assurera que le lien. C'est-à-dire qu'on recevra l'appel et on réorientera vers ces différentes plateformes qui seront mises en place. Avec la psychiatrie, la toxico, l'addictologie et le médico-social. Donc on voit bien que tout ça, ce n'est pas pour être hégémonique, c'est surtout pour apporter, on a un standard, une frontline qui ensuite va orienter ces flux vers la partie la plus adaptée à cette réponse, qu'elle soit à l'intérieur du SAS ou qu'elle soit à distance. C'est vraiment une coordination. Et on s'appuiera pour ça sur tout ce qui existe, les plateformes territoriales d'appui, les CPTS, les médecins qui voudront participer. Enfin, tout ça, c'est vraiment essayer de... Et on ne va pas le faire tout seul, on va s'appuyer sur l'ARS et le CODAMUPS et donc tout ce qui est organisé pour la réponse urgente. Alors, le SISAMU, le système informatique du SAMU, a des objectifs communs. C'est arriver à avoir une qualité de service homogène sur tout le territoire. Actuellement, chaque SAMU a un logiciel. Enfin, il y en a deux ou trois, mais on a des logiciels différents. Actuellement, on a la chance dans la région d'avoir le répertoire opérationnel des ressources, un certain nombre d'outils et de coordination. Je sais que si je veux obtenir des informations sur ce qui se passe sur la région pour une pathologie, je peux m'orienter vers le grade qui gère le ROR et obtenir ces informations-là. Et c'est à développer encore plus. Donc avec le SISAMU, on aura cet outil qui sera le même sur tous les SAS de France. Et ça permettra donc de coordonner ces réponses. Assurer un transfert d'informations entre SAMU sur tout le territoire. Actuellement, quand on veut communiquer avec un SAMU d'un autre département, même si on a le même logiciel, pour une intervention commune, notamment avec les hélicoptères, ça nous met en difficulté parce qu'on peut arriver à envoyer chacun son hélico sur une intervention. Si la personne est passée par le 18 d'un département qui a transféré sur le 15 de son département, alors que le 15, pour des raisons géographiques, est basculé sur notre département. Et on peut arriver à quelque chose qui peut être dramatique. Gérer une crise sanitaire d'ampleur nationale sur un même outil. On a commencé. Là, actuellement, quand on faisait des EVASAN, on utilisait SISAMU, la gestion de crise, pour assurer la coordination. Et donc, on n'avait plus besoin de s'appeler. On s'appelait au départ pour gérer l'événement. Et ensuite, tout passait par une plateforme qui était une plateforme de gestion avec de la communication. On a une sorte de WhatsApp. Tout est fait. On a des mains courantes et tout est fait pour nous aider. Un système, il est sécurisé et disponible H24. Et surtout, c'est de la régulation de soins non programmés diffusables. Ce qui veut dire que demain, on pourrait imaginer qu'à Arles, on ait une plateforme de régulation détachée, déportée. Et ça dépendra de ce qui est décidé entre l'ARS dans le territoire et les outils et le personnel médical que l'on a dans le territoire qui est disponible et qui voudra bien participer. Donc vous voyez l'enjeu du déploiement. C'est une interconnexion aussi avec les partenaires, que ce soit les SDIS, le bataillon des marins-pompiers bien sûr à Marseille, mais aussi les transporteurs sanitaires privés. On en a parlé tout à l'heure des plateformes, des hotlines de gériatrie, avec quelque chose qui puisse communiquer les uns avec les autres pour qu'on n'ait pas à recommencer le dossier systématiquement. Et quand un appel est enregistré dans un système informatique, il peut remonter. Imaginez une hotline de gériatrie qui a un appel d'un médecin coordinateur ou d'une infirmière pratique avancée dans une maison de retraite et qui décide que ce patient, finalement, il faut l'hospitaliser. Donc il va demander qu'on appelle le 15, alors qu'il pourrait très bien dire « je fais un acte de transfert d'appel » et on se retrouve avec directement cet appel enregistré et on gagnerait du temps sur toute la prise en charge. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et bien sûr, tout ça, il faut que ce sont des données de santé, il faut que ce soit confidentiel. Et quand on a des données de ce niveau-là, ça facilite la recherche clinique et ça permet d'améliorer encore la réponse. Donc ça c'est un exemple, hein. c'est moi qui l'ai pris aux journées de SAMU de France, et vous voyez bien que c'est quelque chose qui n'existe pas malheureusement encore, mais qui existe par exemple en Israël. L'autre jour, je suis allé faire une formation avec la Croix-Rouge israélienne et ils ont cet outil-là avec, vous voyez, le téléphone. Si on veut joindre directement le SAS, on clique dessus et le téléphone appelle directement. C'est urgent. Par contre, on peut avoir accès à un certain nombre de données. Et par exemple, la question tout à l'heure, enfin, qu'on m'a posée par anticipation, ça pourrait dire, je veux joindre le service des urgences, est-ce que j'ai cette capacité-là ou peut-être un spécialiste dans un établissement de soins. Et donc, on voit que cet outil-là pourrait permettre d'assurer ce service. On pourrait avoir des infos, des conseils, un espace professionnel avec un espace alerte sanitaire. Hein, comment savoir que, par exemple, est-ce que l'épidémie d'Ebola continue en Centrafrique ou est-ce qu'elle s'est arrêtée? Comment est-ce que je peux avoir cette information en direct? Parce que là, en face de moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir et il revient de voir les singes au fin fond de la forêt africaine. Vous voyez, c'est des trucs qui pourraient nous aider, qui pourraient aider le praticien au quotidien. Et ensuite, on pourrait même imaginer que cet outil permette de réaliser de la téléconsultation. Donc, on voit, bon, je vais passer là-dessus parce que j'ai parlé et j'ai expliqué tout ça. Ça doit être appliqué au territoire, bien sûr. Et bien sûr, le médecin traitant doit être au centre de tout ça et permettre aussi des agendas en ligne permettant de... Et c'était aussi une question qui était posée. La diffusion de conseils aussi, diffusion d'alerte sanitaire ou attentat. Imaginez que demain, vous recevez une alerte sur votre smartphone qui vous dit il se passe quelque chose à tel endroit, ne vous déplacez pas. Il y a deux, trois semaines, dans les quartiers nord de Marseille, il y a eu un règlement de compte entre trafiquants. Et moi, l'information que j'ai eue immédiatement, c'était d'essayer d'éviter d'aller dans cette partie-là de Marseille, parce qu'on ne savait pas si l'agresseur était repéré. Voilà. Et puis, même principe pour moi, ça, j'en ai parlé oralement. Ça, c'est l'application smartphone. On pourrait imaginer aussi une application smartphone beaucoup plus concentrée qui permet d'appeler directement le SAS. Donc, c'est la porte, la fenêtre d'après. Et on voit qu'on pourrait envoyer une photo, faire de la téléconsultation. Et en fonction de l'endroit où on se trouve, l'HAD, l'EHPAD, les grossesses à risque, permettre une surveillance. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec le Covid, avec l'application Covid APHM, où on enregistrait les patients sur notre application. On avait des opérateurs qui étaient formés à ça et qui surveillaient en permanence. Et le patient, tous les jours, cochait un certain nombre de questionnaires et il restait vert, orange ou rouge. Et quand il était rouge, on le rappelait immédiatement. Ce qui permet en fait d'accéder directement à la demande et de rassurer le patient. Du coup, il s'auto-surveille et ça permet aussi de libérer les preneurs d'appels et un certain nombre d'acteurs de terrain. Puis l'intelligence artificielle pour que les SAMU anticipent. Ça, si vous voulez, c'est les courbes d'appels en fonction depuis plusieurs années. Vous voyez que vous avez des pics en fin d'année, vous avez la bosse de grippe qui suit, des petits pics au moment de la canicule, et puis là, vous avez le Covid. Donc, vous voyez qu'on peut le voir. Et on pourrait imaginer qu'en fonction de ces volumes d'appels, avec un algorithme, nous aider à dire, là, vous allez rentrer dans une situation critique ou pas. Ça, c'est le transport non médicalisé, parce que pendant la crise, c'est ce qui m'a permis, en fait, de savoir quel était le niveau de l'évolution de l'épidémie. Et on voit bien ces pics dans des différentes vagues. Pareil pour les tranches d'âge. On voit que pendant la première vague, c'était surtout des personnes de 19 à 60 ans qui étaient contaminées. Puis ça, c'était l'été, avec le mélange de populations. Et puis la vague d'automne qui est arrivée. Et là, on voit que le fait qu'il y ait un mélange de populations, ça a donné la remontée des patients plus âgés. Là, actuellement, elle est basse. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle peut nous permettre de nous aider. Et actuellement, pour le Covid, par exemple, c'est un traçage manuel. C'est-à-dire que chaque médecin devait cocher un code qui lui permettait de déterminer si l'appel était Covid ou pas. Mais ce n'est pas très exhaustif. L'idée, c'est de se dire, eh bien, avec l'intelligence artificielle, je vais repérer dans l'appel ce qui me permet de dire, voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Et ça nous permettrait d'analyser tout un tas de filières et améliorer cette réponse. Donc ça, pour la gestion du codit, je vous en ai parlé oralement, donc je parle beaucoup sur certaines diapositives, et ensuite, ça permet d'aller plus rapidement sur d'autres. Alors, ce ne serait pas la solution de tout, hein, mais ça nous permettrait d'avoir une réactivité plus fine. Là, c'est un peu complexe, je vous l'avoue, mais c'est pour imaginer, ça c'est ce qu'on réalise actuellement. C'est le parcours d'un appel. Que vous fassiez le 18 ou le 15 actuellement dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers, par exemple, sont chargés d'assurer le tri et tout ce qui nécessite et qui peut être régulé et pour lequel la régulation va apporter une plus-value est transféré au SAMU Centre 15 des Bouches-du-Rhône. Vous avez à ce moment-là un médecin, une arme qui trie et qui dit « c'est grave, c'est moins grave ». L'opérateur des pompiers fait exactement la même chose. Hein. Il y a une gradation dans le transfert de l'appel qui réalise la même chose. Donc le médecin régulateur hospitalier va recevoir tout ce qui est considéré par les primo répondeurs comme relevant de l'aide médicale urgente ou alors du soin non programmé. Quand ça bascule dans l'escarcelle de l'aide médicale urgente, on a plusieurs mécanismes de réponse qui sont l'envoi d'un SMUR quand il y a une détresse vitale, l'envoi d'un véhicule de secours quand il y a besoin d'une équipe et de secours en urgence, ou d'un hélicoptère si vraiment c'est nécessaire, mais on peut envoyer aussi des transporteurs sanitaires privés quand c'est une demande urgente à domicile qui nécessitera de toute manière une hospitalisation. Donc vous voyez que déjà cette réponse elle est importante, mais le médecin régulateur de l'aide médicale urgente peut aussi donner un conseil médical et peut envoyer un médecin de ville de garde s'il en a. De même, le médecin régulateur libéral peut assurer la même réponse et donne essentiellement des conseils médicaux à ce niveau-là. Et ce qu'on va rajouter là-dedans, c'est une part d'irrégulation. C'est-à-dire que dedans, on pourra mettre une levée de doute avec de la télécommunication, de la téléconsultation sur tous ces effecteurs. Et notre objectif, actuellement, on ne le réalise que pendant les périodes de garde, hein, quand les cabinets médicaux sont fermés. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est que pour aider les gens qui n'arrivent pas à joindre le médecin traitant ou pour lequel le médecin traitant n'a pas de solution, c'est arriver à trouver la meilleure solution que celle de l'envoyer à l'hôpital ou de le conseiller d'aller à l'hôpital. Donc ça, c'est la visioconsultation qui permettra peut-être de diminuer cette pression hospitalière. Et donc avec les outils dont je vous ai parlé, en mettant au milieu ces petits applicatifs sur smartphone. Voilà. Les objectifs à court et à moyen terme, donc c'est déjà d'harmoniser la réponse des SAMU Centre 15 de la région, mutualiser les moyens de régulation lors des périodes de tension, donc ça, on pourra l'avoir que quand on aura le système d'informatique commun, et puis améliorer les effecteurs de terrain avec les transporteurs sanitaires privés, ça c'est en cours, on est en lien permanent. Nous, les appels sont basculés sur un centre d'appel ambulancier qui nous trouve les ambulances et qui, quand il ne les trouve pas, bascule directement l'appel aux pompiers qui envoie une carence. Donc c'est quelque chose de quasi automatique et qui fonctionne très bien. Mettre en place des médecins correspondants SAMU et puis s'appuyer sur les médecins généralistes libéraux pour assurer les prises en charge des patients pour des visites médicales ou des consultations. Rien n'empêche un médecin de proximité, s'il a un trou dans sa consultation de dernière minute, hein, de la proposer à la plateforme et de recevoir un patient qui n'a pas l'habitude de recevoir. D'assurer des régulations de la téléconsultation à distance. Et puis, il y a les infirmières pratiques avancées qui vont rentrer dans ce panel de réponses et qui pourront assurer de la téléconsultation avec le médecin traitant ou quand il n'est pas disponible, si c'est urgent, avec nous. Et tout ça pour gérer l'orientation des patients au mieux et apporter la meilleure réponse. Alors, les délais sont assez courts, hein, parce que là, je vous ai mis un calendrier. Vous voyez, la mise en place du SAS, ça devait être courant 2020. Ça a commencé dans certaines régions. Et très rapidement, vous voyez, entrée en vigueur de la réforme de financement des urgences, c'est 2021, c'est actuellement. Et là, 1000 CPTS en fonctionnement dans courant 2022. Et la sortie des formations des premiers infirmiers à pratique avancée pour l'urgence, c'est 2022. Donc on voit bien qu'il y a déjà des choses qui sont en cours et qui sont avancées suivant les territoires de manière plus ou moins importante. Et puis, ça c'est un peu pour faire notre publicité. Donc on va avoir des nouveaux locaux d'ici 4 à 5 ans. Et vous voyez que la médecine libérale a quasiment plus de postes que la médecine hospitalière. Parce qu'on a vraiment prévu de s'ouvrir vers la ville en intégrant beaucoup plus de médecins libéraux au niveau des SAMU Centre 15 pour assurer cette régulation. Et vous voyez aussi que la téléconsultation, on a prévu un certain nombre de box de téléconsultation. Et voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc c'est pour vous dire que on essaie d'améliorer cette réponse et de la coordonner. Bravo.
J'ai pris des notes simplement pour dire de nous avoir parlé avec simplicité, clarté, d'un enjeu d'avenir proche pour nos urgences. Merci de donner à tous les médecins la possibilité de concevoir et d'agir ensemble. C'est un peu notre vision en arrivant ici. Je dirais que tu nous as parlé donc d'une médecine moderne, de partage et d'action. Précise-moi la place du médecin traitant, et en particulier du médecin de ville, mais du médecin traitant dans la pratique. Il a une place, tu l'as souligné, tu as dit qu'elle était importante, mais dans la pratique, comment va-t-il s'insérer ?
Alors, c'est ce que j'ai évoqué un peu rapidement. En fait, l'idée, c'est que on ait accès à ces disponibilités.
Oui.
Qu'on puisse dialoguer avec lui, c'est-à-dire que si, peut-être on pourrait même, à la limite, lui demander son avis sur un patient pour lequel on a un doute. Et puis surtout, c'est pouvoir accéder à ces créneaux libres et surtout quand on a fait intervenir quelqu'un ou quand quelqu'un a pratiqué de la téléconsultation, il ait accès à cette information pour qu'il n'y ait pas de discontinuité dans la prise en charge.
Alors j'avais une autre question, tu parles de la continuité des soins, est-ce que tu accordes une grande place aujourd'hui au dossier médical partagé ? Parce que dans la pratique, le médecin traitant a de grandes difficultés à l'élaborer. Tu sais très bien qu'il faut du temps pour le faire et que ce temps ne lui est pas donné.
Alors l'idée c'est qu'il pourrait améliorer les choses, c'est qu'en fait, moi je le vois par la pratique de mon épouse qui est médecin généraliste en ville, c'est vrai que le temps qu'on passe sur un dossier est complexe. Mais peut-être qu'il faut améliorer cette interface pour que il y ait des incrémentations automatiques d'un certain nombre de choses qui permettent d'améliorer de diminuer ces temps passés à le remplir. Nous, par exemple, moi je vois qu'on utilise le dossier médical informatisé des patients de l'hôpital.
Oui.
C'est-à-dire que quand ils nous appellent, on a la capacité d'aller regarder leur dossier et de savoir, de connaître ses antécédents, où il est suivi, par qui il est suivi, et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la prise en charge et de l'optimiser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter de son orientation plus facilement.
Mais pour que ce soit interactif, est-ce que le médecin traitant n'a pas justement cette difficulté que vous n'avez pas à l'hôpital à constituer le dossier ?
On a les mêmes, on a très peu de temps en fait. Mais je comprends la question, et c'est vrai que c'est une difficulté, peut-être que... surtout quand je vois le temps qui est pris à la consultation je n'ai pas la solution, mais c'est vrai que c'est un enjeu important. J'ai arrivé à concilier et à comprimer ce temps de prise de données sur le dossier médical, c'est quelque chose qui est primordial, mais qui est vraiment chronophage et qui nous coûte beaucoup. Hein. Moi, je vois, quand on part à l'intervention, on a un dossier médical. Heureusement, maintenant, j'utilise la dictée. Oui. Et donc, je me connecte sur le logiciel et je dicte et ça fait gagner énormément.
Ce qui paraît plus logique et plus facile, d'ailleurs.
Et même, on en est à se demander s'il ne faudrait pas faire de la dictée automatique quand on régule. Parce que les informations que l'on rentre dans le dossier sont parcellaires et on a des grandes difficultés quand on nous pose des questions à distance sur un problème médical ou médico-légal à comprendre ce qui a été dit et écrit. Et je comprends la question, mais c'est difficile d'y répondre.
Merci beaucoup. Parce que ça ouvre vers une médecine vraiment moderne et qui va nous permettre probablement d'améliorer les performances que vous avez déjà montré depuis longtemps et la qualité des soins que vous donnez.
On va essayer d'améliorer.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci beaucoup. Merci à vous.